Nous allons accueillir notre invité politique, mais avant ça, il faut que je vous explique un petit peu. Chers amis, comme vous le savez, puisque vous suivez assidûment ma chaîne, n'est-ce pas, dans l'agenda de l'Assemblée nationale, il y a des jours du calendrier qui sont prévus à l'avance pour permettre à des groupes minoritaires de l'Assemblée de défendre leurs propositions de loi. On a déjà eu l'occasion de suivre sur ma chaîne ce qu'on appelle des niches parlementaires dans le jargon, ce sont ces jours de calendrier. On a déjà eu celle des Insoumis, où il avait été voté notamment l'IVG dans la Constitution, il y a eu les socialistes, il y en a eu d'autres, etc. Aujourd'hui, c'était la niche d'un groupe minoritaire à l'Assemblée qui s'appelle le groupe Horizon. Ouais, Horizon, c'est le parti... Ouais, super. Il y en a un, bah oui, Horizon. Horizon, c'est le parti politique des proches d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. C'est donc un groupe de l'Assemblée nationale qui fait partie de la majorité et qui, avec Renaissance et avec le Modem, constitue la majorité relative qui soutient Emmanuel Macron. Ce groupe Horizon avait déposé une proposition de loi aujourd'hui pour qu'elle soit examinée et pourquoi pas adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'était une proposition qui prévoyait des peines planchers pour les délinquants en cas de récidive, donc en gros une peine minimale qu'un juge doit prononcer s'il y a récidive. Sauf que l'article 1er de cette loi a été rejeté, de pas beaucoup, mais il a été rejeté. Et juste après qu'il ait été rejeté, il s'est passé ça.
Merci Madame la Présidente et je prends la parole pour vous informer que je vais retirer cette proposition de loi. Et croyez-moi, ça me coûte. J'étais prête au combat. Combat d'idées. Argument contre argument. Conviction contre conviction. J'étais moins prête au coup tordu. Je dois vous le dire mes amis. J'étais moins prête aux manœuvres. Au coup de procédure. J'étais moins prête au scrutin public sur des amendements rédactionnels. Quel gâchis, mes chers collègues. Quel gâchis.
Elle est vénère. Elle est surtout vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je vous demande d'accueillir la députée Naïma Moutchou. Bonjour, Naïma Moutchou.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je le disais, vous êtes députée Horizon, donc vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et c'était vous qui aviez déposé cette proposition de vous. C'est vous que l'on vient de voir il y a seulement quelques heures à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la majorité a rejeté une proposition de loi qui vient de la majorité?
Eh bien, nous étions visiblement en désaccord.
Semble-t-il.
Nous étions en désaccord et donc ils ont fait valoir leur désaccord d'une manière un peu particulière puisque on peut ne pas être d'accord sur le fond. Il y a des manières de traiter des groupes dans la majorité. Il se trouve que sur la forme, c'était un peu limite.
C'est-à-dire ça a manœuvré qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des consignes qui sont passées en disant, je sais pas, désinguez-moi cette proposition, on n'en veut pas.
Il y a eu beaucoup de fébrilité, je crois. Beaucoup de fébrilité et en réaction, des comportements qui ne sont pas adaptés. Donc effectivement, on a utilisé à la fois des armes d'obstruction, de coups de procédure, comme je disais, parce qu'on a fait des demandes de scrutin public à tort et à travers. On a pris le temps de développer des argumentations dans tous les sens. Voilà, une manière de gagner du temps pour ne pas faire adopter le texte à la fin.
Bordélisation, en somme.
Forme de bordélisation.
Comme quoi,
ça peut venir de partout,
c'est fou. Vous êtes toujours députée de la majorité ce soir, Naïma Moutchou?
Oui, je le suis toujours, puisque je suis membre d'Horizon et qu'à 7h, Horizon est bien membre de la majorité.
Vous avez échangé avec Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron?
Non, parce que ce n'est pas l'usage. Moi, je communique directement avec mon président de groupe, Laurent Marcangeli, puis le président du parti, Édouard Philippe.
Qu'est-ce qu'il en pense, Édouard Philippe?
D'abord, il était très en soutien de ce texte. Oh. Évidemment, on a échangé. C'était mon initiative, mais on a échangé. Et donc, Édouard, il a trouvé que c'était courageux. D'être allé au bout, d'avoir porté le sujet, parce que c'est vrai qu'il faut un peu de courage politique, c'est pas simple, hein, le sujet de la récidive, le rapport au magistrat. Et donc, d'abord, il m'a soutenu, et ensuite, il m'a félicité.
Léa, les peines planchers pour les récidivistes, c'est un truc qui nous rappelle quelque chose en France?
Nicolas Sarkozy.
Oui.
Le juste péché.
Non, c'était intéressant. Pourquoi être allé rechercher ça en 2023, finalement?
Alors, peine planchée, pas une marque déposée par Nicolas Sarkozy. Même si, Les peines planchers de 2007, évidemment, sont estampillées Nicolas Sarkozy. Donc on en parle beaucoup sous cet angle. Les peines planchers, qui sont des peines minimales, en réalité, elles existent déjà. Elles ont existé, elles ont été abrogées, elles sont revenues en 2007. Elles étaient portées à l'époque par la garde des Sceaux Rachida Dati. Mais il y a d'autres formes de peines minimales dans le code. Donc ça m'a paru être une bonne idée. Voilà. La récidive, c'est un phénomène qui est difficile à appréhender. Et moi, je me suis dit, il faut à la fois, sur ces sujets, être en capacité de sanctionner. Pas de sanctionner tout le monde, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le phénomène de récidive vis-à-vis des gens qui incarnent l'autorité dans le pays. Donc, sanctionner ceux qui récidivent des agressions contre des pompiers, des policiers, mais aussi des enseignants, des chauffeurs de bus, des gardiens de HLM, des agents de CAF, de Pôle emploi, parce que ça existe. Ça existe dans notre pays, malheureusement. Et puis, il y a tout un pan qui a été occulté du texte. Ce sont toutes les mesures de réinsertion et d'accompagnement. Parce que je crois aussi qu'il faut être en capacité de répondre aux besoins des détenus, les accompagner au retour à la collectivité. Donc voilà, c'était un ensemble. Okay. Et il m'a semblé que c'était calibré, équilibré.
Finalement, à cause de toutes ces manœuvres que vous dénoncez, je mets entre guillemets manœuvres, parce que vous faites état de manœuvres, mais ce n'était pas comme ça que c'est peut-être perçu dans la majorité, en tout cas auprès d'autres députés. Vous venez de dire à l'instant, le groupe Horizon fait encore partie de la majorité pour l'heure. Est-ce que cet événement pourrait signer un désaccord profond qui en viendrait à une scission au sein de la majorité ?
Non, c'est Mucho.
Oui, non, c'est pas ce que je dis. Je dis que on est une grande famille. Mm-hmm. Et on est trois groupes dans cette grande famille. Et on est trois groupes parce que on a des sensibilités différentes. Et donc c'est vrai que c'est un désaccord. C'est un désaccord très net sur un sujet régalien, on n'est pas identique à Renaissance.
Alors ce n'est pas tant un désaccord sur le fond, vous dénoncez même encore dans la presse là, cet après-midi des manœuvres.
Mais bien sûr. Des coups bas même.
Des coups bas, bien sûr.
Est-ce qu'on est de la même famille quand il y a des coups bas?
C'est pas juste un simple désaccord, il y a quand même...
Alors, en politique, vous savez, des coups bas...
Oh, on en a vu d'autres.
Sinon, il faut faire autre chose, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond, c'est pour ça que je dis ça. C'est le désaccord de fond. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le débat d'idées.
Donc c'est un problème idéologique même, vous pensez ?
Pardon ?
C'est un problème idéologique ?
Ah bah clairement.
D'accord.
Ah oui. Il y a une espèce de blocage, une espèce de traumatisme sur ce sujet. Parce que quand les collègues me disaient « mais tu comprends, les peines planchées, c'est des peines automatiques, le juge est délié. » Je dis « mais attendez, mais quand on vote des peines automatiques complémentaires, comme on l'a fait la semaine dernière, comme on va le faire la semaine prochaine, c'est le même process. »
Mais ceux qui disent ça, c'est ceux qui soutiennent Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, par ailleurs. Enfin, qui lui aussi fait du coup plutôt
une politique Sarkozy,
enfant sarkozien, enfin voilà, qui est plutôt dans la défense d'une fermeté de la justice. J'essaye de comprendre. J'ai l'impression qu'on est au cœur du en même temps et que ça devient compliqué. Du coup, ça m'intéresse.
Moi, je pense qu'on est sur c'est un sujet abrasif. Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire quand on est sur les questions de sécurité et quand on parle de la récidive, ça fait débat, ça fait polémique. Donc, on a essayé d'organiser au mieux ces débats avec nos partenaires de la majorité, en tout cas pour ce qui nous concerne nous. Bon, ben en retour, voilà, on a été accueillis, je trouve, comme un groupe d'opposition. Peut-être moins bien.
Est-ce que ça a été une surprise ? Est-ce que vous y attendiez ? Est-ce que hier matin, en vous levant, ou même ce matin en vous levant, vous êtes dit la PPL, je vais devoir la retirer ? Est-ce que vous aviez des signaux faibles ?
Je ne m'attends jamais au pire. Parce que le pire n'est jamais sûr. Mais je commence à m'habituer. On n'a rien à vous cacher.
C'est quoi ? C'est une couleuvre que vous avalez ?
Non, c'est pas une couleuvre, parce que ça fait partie des petites aventures, des petits épisodes qui peuvent arriver de temps en temps dans une famille politique. Mais en même temps, nous, on en prend acte. On dit, bon, bah, très bien, il s'est passé ce qui s'est passé. On ne reculera pas. C'est-à-dire que nous, on continue de dire qu'on on a eu raison de présenter ce texte d'abord, et d'aller au bout, et de le retirer. On verra quels enseignements seront tirés de l'autre côté.
Justement, c'est la question que je me pose. On parlait des limites du en même temps, de cette majorité fourre-tout, ratatouille, chèque-chouca, appelez là comme vous voulez. Est-ce qu'on n'arrive pas justement à la limite on va le garder ça, majorité chèque-chouca, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on n'arrive pas à la limite ? Aujourd'hui, vous faites toujours partie de la majorité, mais c'est quoi l'avenir là pour Horizon ? C'est quoi l'horizon pour Horizon ? Dans les prochains mois, dans la prochaine
Joli
année.
Ouais, merci. Ça ne méritait pas des applaudissements, c'était pas ouf.
Merci beaucoup. Là, voilà, on voit qu'il y a un problème idéologique. Bon, bah, c'est quoi l'avenir ? C'est quoi la question ?
Mais nous, je dirais que notre chemin, notre parcours, il est le même. Il est le même depuis le début. On ne se construit pas par rapport aux autres, déjà. On ne se construit pas par rapport aux groupes de la majorité ou des groupes d'opposition. On n'est pas en réponse à ça. On est tout jeune. Horizon a un an et demi d'existence. On est en pleine construction. Donc, on est sur le fond, voilà, on essaie de construire un projet, on essaie de raconter une histoire pour les Français, on essaie de se positionner sur les sujets qui nous paraissent utiles. Et ça, c'est déjà un travail qui nous prend énormément de temps. Après, le reste...
Mais ce n'est pas la première fois que le groupe Horizon fait parler de lui dans cette nouvelle majorité particulièrement mise sous pression par son caractère relatif. On se souvient très récemment encore de l'amendement sur les 43 annuités maximum de cotisation au moment de la réforme des retraites. Il y a un moment, il y a un éléphant dans la pièce, là on n'en parle pas depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Édouard Philippe.
Faut l'appeler.
Non mais je sais pas, j'adorerais qu'il vienne nous en parler lui-même, mais c'est un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron aujourd'hui, du gouvernement d'Elisabeth Borne.
Non mais nous... Donc,
honnêtement.
Faites état. Non.
Non, elle est entre nous.
Il n'y a pas de caméra, on est entre nous. Allez.
En off.
Oui, vous faites état, effectivement. On a eu des prises de parole ou des positionnements un peu différents, mais ça, c'est normal. Enfin, nous, on fait de la politique. On a choisi d'être différents. On a choisi de constituer un groupe à part entière. C'était pour faire valoir un certain nombre de convictions.
Ah oui, c'est vrai qu'il vaut mieux servir à quelque chose. Oui, oui.
Se rejoint sur les grandes lignes du projet présidentiel. Ça, on s'est tous engagés là-dessus. Après, le reste.
C'est quoi ces grandes lignes?
Les grandes lignes, c'est celles qu'on a défendues depuis 2017. Hein. C'est pas quelque chose de très différent. C'est-à-dire un vrai projet de progrès, un projet qui regarde les sujets en face, quels que soient les sujets.
C'est un peu vague.
Un peu vague.
Enfin...
Parce que le diable est dans les détails, donc je vais rester vague.
Okay, parce que j'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi.
Mais
le projet.
Quel est le projet de
lui en même temps?
Non, je sais pas.
Je sais pas.
Et voilà, moi, on est d'accord.
C'est dur à expliquer à président de pouvoir.
Mais c'est jamais simple. C'est jamais simple à raconter, c'est vrai. En revanche, je vois où se situe Horizon. Voilà. Vois où se situe
dans l'avenir. Dans l'avenir.
Ça, c'est différent.
Vous voyez où se situe Horizon, mais vous voyez aussi la conception du groupe Renaissance, qui est le groupe majoritaire dans la majorité, qui ne conçoit pas justement la vision de la majorité comme vous pouvez le concevoir, vous. On est d'accord ou pas?
On est d'accord sur un certain nombre d'aspects, c'est-à-dire qu'il y a des sujets de fond, effectivement, sur lesquels on ne va pas être d'accord. Il y a une manière de faire de la politique sur laquelle on ne va pas être d'accord non plus, c'est vrai. Mais enfin, moi, je me reconnais dans la majorité, je ne me reconnais pas dans la NUPES et je ne me reconnais pas dans le RN.
On a bien compris, mais là, il y a LR entre les deux. Il ne faut pas l'oublier.
On les embrasse, salut Aurélien Pradier.
J'ai tendance à les enjamber parce que je vois bien que...
Il y a Aurélien Pradier, il y a M. Pradier qui vous regarde, il y a plein de gens qui vous regardent. Non, mais on a compris que...
Ça n'a pas existé longtemps. Hein.
Mais dans la pratique, on conviendra que pour Renaissance, c'est rentrer dans le rang. La majorité, c'est rentrer dans le rang et ne dites rien. Et ce n'est pas votre vision, donc à un moment, il y a blocage.
Ah, ça, c'est sûr, ça, je vous le dis. On n'est pas des supplétifs de la majorité, on n'est pas des supplétifs de Renaissance. Nous, on a des choses à dire.
Après ce qui s'est passé aujourd'hui. mais c'est vrai.
Donc, est-ce qu'on peut dire que la majorité craquelle ce soir?
Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de la malédiction Baxit?
Oui.
J'hésite à venir.
On va pas revenir dessus, c'est chiant.
Non, on va pas en parler, c'est ça.
Mais Chloé, qu'est-ce que ça nous dit de la nouvelle configuration à l'Assemblée nationale vis-à-vis de la majorité elle-même, ce qui est en train de se passer?
Moi, ce que ça m'invoque, c'est qu'on parle souvent des dissensions de la NUPES. On dit ils sont jamais d'accord, on prévoit la mort de la NUPES tous les 4 matins.
Non, c'est pire.
Et en fait, la majorité, elle est aussi divisée et elle est aussi morcelée. Non, moi, ce sur quoi j'avais envie de vous interroger, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas simplement membre du groupe Horizon. Donc vous êtes parmi les garants du bon fonctionnement de cette institution qui est le cœur de la démocratie représentative dans notre pays. Une première question, déjà, comment est-ce que vous la percevez aujourd'hui, la santé de cette démocratie représentative? Qu'est-ce que vous pensez des autres formes de démocratie directe, participative, délibérative? Et comment vous vous positionnez en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale sur la réforme des institutions qui est annoncée par le président, avec notamment le projet de passer à la proportionnelle pour l'élection des députés, voire de réduire le nombre de députés?
Moi, ce que je vois me fait du mal. Bien sûr que la démocratie est malade. Ça me fait du mal, y compris d'ailleurs, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que d'où je viens, être entré au Palais Bourbon, c'est une immense responsabilité et un honneur.
Et c'est d'où vous venez, pour ceux qui vous connaissent mal?
On vient du même département.
Du Val d'Oise, vous êtes un
Val d'Oise? Exactement.
Ah, c'est exceptionnel.
Moi, je suis d'Argentine, vous êtes
un... Ça va, c'est pas si loin.
Incroyable. Vous étiez à l'école ensemble?
Non.
Ça, c'est quelqu'un de bien.
Les meilleurs.
Attendez, la fin de la mission.
Est-ce que je vais dire la même chose de vous, madame la députée?
Excusez-moi, mais donc je comprends. Donc, au temple de la démocratie...
D'où je viens, c'est d'une famille modeste, ouvrière.
Ok.
Parents sont immigrés marocains, c'est... pas les traits, etc. D'où je viens, ça veut dire quelque chose, ça, je veux dire. Je mesure l'importance.
Et donc, ça vous fait du mal.
Et donc, quand je vois le comportement de certains, je suis heurtée dans ma chair, si vous voulez. Ça me fait du mal.
Mais certains, ils ont l'air d'être partout, là, du coup. La NUPES, on en reparlera peut-être sur la réforme des retraites. Là, visiblement, Renaissance de fait sur votre propre proposition de loi, et je comprends que ce soit particulièrement dur à vivre. Le Rassemblement national, tiens d'ailleurs, joue-t-il le jeu des institutions ? Qu'en pensez-vous ? D'où vient le blocage ? Est-ce qu'un seul camp a l'apanage de la bordélisation de l'Assemblée ?
Non, et puis ça remonte à loin, en fait.
En plus.
Ça fait des années que tout ça ne fonctionne pas ou fonctionne assez mal, en fait. C'est ça, le problème. Et les gouvernements successifs n'ont pas eu le courage de prendre le sujet à bras-le-corps. Je crois qu'il faut le faire. Il n'y a jamais eu autant de défiance vis-à-vis des hommes et des femmes politiques. Franchement, c'est très difficile. Et de parler aux citoyens lambda et aux jeunes et de leur dire « venez voter ». Ils n'ont pas très envie de voter. Parfois, je les comprends.
Peut-être qu'ils veulent faire plus que voter.
Effectivement. Alors, il faut pas qu'une réforme des institutions. Il faut une réforme des institutions, je pense, parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose, c'est vrai. Donc, il faut remettre à plat. Il faut parler de tout, y compris la démocratie participative. Mmh. C'est un des éléments. Moi, je suis favorable au septennat, par exemple. Moi, je suis pour le temps long. Moi, j'aime bien.
C'est pour septennat unique.
Je suis bien là, je suis à l'aise parce que j'aime bien le temps long. J'aime bien quand on prend le temps de faire et de parler et d'expliquer. 5 ans, franchement, c'est pas assez.
C'est quoi le rapport avec la démocratie participative pour le coup ?
Non, ça, c'est un autre.
Ah, c'est autre chose. Oui, d'accord. Okay,
complètement différent. Non, la démocratie participative, c'est très difficile à dire.
Parce comme que les conventions citoyennes, tirées au sort, est-ce qu'il faut pérenniser
exactement.
Ça
exactement. Enfin, ça sert à quelque chose parce que c'est quand même grosse douille la dernière.
Non mais.
Non mais c'est vrai. Alors, aucune mesure a été reprise. Déjà, on travaillait pendant des mois.
Quelques-unes, mais pas
des choses du sans filtre.
Il y a des choses qui ont été reprises, mais tout ça doit bien s'imbriquer. C'est-à-dire, la convention citoyenne ne peut pas remplacer le Parlement.
Non, mais
il faut
inventer la transition
simple,
sans filtre. Non,
c'est pas
évident.
Mais il ne faut pas qu'elle ait travaillé pour rien non plus.
Mais il faut pas qu'elle. Je suis d'accord avec vous. Ça ne peut pas être de la façade. Ça ne peut pas être de l'affichage non plus. Il ne faut pas prendre les gens pour des.
D'accord.
Sur la réforme des retraites, je le disais, je voudrais bien vous entendre à la fois en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale. Mais tiens, d'ailleurs, je vais commencer par ça. On en parlait, on a eu l'occasion d'interviewer sur ce même plateau plusieurs députés qui ont participé à ces débats, qui sont venus leur donner leur point de vue, pas toujours le même d'ailleurs, sur ce qui s'est passé. Quel est le regard que porte la vice-présidente que vous êtes sur les conditions du débat à l'Assemblée nationale ? Est-ce que l'article 47.1, c'est le bon véhicule pour discuter d'une réforme aussi importante que celle des retraites ?
Good question.
Ça n'est jamais la meilleure des solutions, évidemment. Nous, on voudrait que le débat puisse se faire, que les gens s'expriment, que les groupes puissent chacun donner leur position. L'intérêt, c'est quand même d'aller au bout des textes. C'est ce qu'on est censé faire, la fabrique de la loi. En ce moment, c'est un peu la fabrique de pot yaourt, quoi. On a du mal à faire la loi.
Oui, oui, c'est vrai.
On a du mal
vrai.
À faire la loi. Et ça, c'est dommage. Donc, je ne vais pas vous dire, youpi, l'article 47.1, c'est... Mais on n'a pas beaucoup de choix. Je vais vous dire, la difficulté, c'est que l'obstruction, qui est un choix politique, les groupes font ce qu'ils veulent,
que vous avez
était annoncée... Que j'ai subi aujourd'hui. Fait, ouais. L'obstruction, elle était annoncée. Voilà. Il y a des groupes qui ne voulaient pas aller au bout dans un choix qui leur appartient, qui n'était pas forcément partagé, d'ailleurs, on l'a vu, à l'intérieur de l'intergroupe, mais c'était leur choix. À partir du moment où on dit on ne veut pas faire voter le texte, il faut bien trouver un moyen d'échappatoire d'aller au bout. Enfin, je veux dire, c'est notre rôle à la fin de voter ou de ne pas voter, d'ailleurs.
Vous d'accepter ou de rejeter. Le 49.3 plutôt que le 47.1.
Le 49.3,
c'est pas beaucoup mieux.
Il est à moitié.
C'est pas beaucoup mieux, mais ça réduisait pas la durée des débats autant qu'avec le 47.1.
On peut l'utiliser, c'est pas terminé.
Oui, c'est vrai.
Absolument, j'allais dire, il est à moitié sur la table.
Et ça vous aurait fait prendre un risque politique beaucoup plus grand que le 47.1, où juste vous avez dit, ça limite les débats de fait dans le temps.
Il y a une question.
Si c'est pas voté, c'est pas voté.
L'avantage, c'est que ça peut surtout être repris en ordonnance après.
Ça vous conviendrait, ça ?
Dans l'absolu, franchement, faire voter la réforme des retraites par vote d'ordonnance, c'est le pire des scénarios.
C'est ce que permet cet article.
Scénario.
En fait, vous vouliez qu'on aille discuter de toute la loi.
Mais ça, c'est pas si vrai, parce que vous visiez un peu la NUPES en disant que certains ne voulaient pas aller au bout de la discussion, mais on a eu plusieurs indiscrétions dans la presse qui nous ont dit que certains groupes de la majorité aussi espéraient qu'on n'aille pas forcément au bout de la discussion.
Oui, peut-être.
Oui.
Peut-être.
Sûrement, même.
Totalement même. Très probablement.
Alors, totalement, si vous voulez.
Vous, qu'est-ce que vous auriez voté sur l'article 7, par exemple ?
Alors, moi, Il faut que je sois dans les débats.
Mmh. Ah, vous n'avez pas de décision personnelle sur le report de l'âge légal de départ à la retraite?
Tout dépend de ce qui aura été proposé à la fin. Moi, il y a un truc déjà. J'ai dit, sur cette réforme, on demande aux Français de faire des efforts supplémentaires, 2 ans de plus, pour financer un système. Moi, j'ai dit, si à la fin, ça coûte plus cher que les efforts qu'on demande aux gens de faire, ça va me poser un problème. Mmh. Parce qu'on aura fait une réforme pour financer, qui à la fin ne finance pas grand-chose, mais les gens travailleront 2 ans. Mmh. Pour ça que je dis, j'attendais de voir ce que ça allait donner, parce que si on commençait à empiler les mesures et que ça nous coûtait bonbon, pour moi, il y avait une vraie difficulté de fond, et même une difficulté philosophique.
C'est l'amendement Horizon qui coûtait cher aussi sur les 43 annuités, pas plus. Non,
enfin, on avait un sujet.
Oui, non, mais c'est vrai. On a entendu Barbara Pompili, par exemple, qui a annoncé qu'en l'état actuel des choses, elle ne souhaitait pas voter la réforme, qu'elle attendait, comme vous, de voir ce que les débats donneront. Bon, il se trouve que là, malheureusement, les débats, vous allez devoir les regarder sur Twitch. parce que c'est au Sénat que ça va se passer. Ouais. Bon, vous savez d'ores et déjà si vous soutiendrez cette réforme lorsqu'elle reviendra à l'Assemblée, ou vous attendez encore de voir ce qui va être décidé au Sénat?
Alors, je vais vous dire, je la soutiens sur le principe.
Ça, oui.
Parce que c'est dans mon ADN.
Vous êtes dans la majo, ça, d'accord.
Non, mais vraiment, pour le coup. Mmh. C'est pas un truc... Je verrai l'application. Voilà, je la soutiens dans le principe, mais je verrai l'application. Je verrai ce qui en ressortira au Sénat, au moment de la commission mixte paritaire et au moment de nos échanges avec le gouvernement.
Léa?
Il y a d'autres sujets qui peuvent peut-être créer des désaccords avec Renaissance. Je pensais notamment au prochain texte un peu chaud du gouvernement sur l'immigration. Vous, en 2018, vous avez fait partie des premiers frondeurs, finalement, en vous opposant au délit de solidarité. Et vous aviez dit, à l'époque, on ne peut pas continuer, comme c'est le cas aujourd'hui, à poursuivre ceux qui agissent avec humanisme. Ça ne peut pas être la conception de la France, en tout cas, ce n'est pas la mienne. Le projet de loi annoncé par Gérald Darmanin, qui a d'ailleurs apporté des précisions aujourd'hui, visant notamment à restreindre le regroupement familial, ce qui est une mesure historique, hein, ça n'a jamais existé en France. C'est la première fois qu'on parle de restreindre le regroupement familial. Faciliter les expulsions, etc. Il veut ceux qui travaillent et pas ceux qui rapinent. Vous, vous en faites quoi de ce projet de loi? Vous êtes pour ou contre?
Alors, moi, je suis pas encore allée... Vous comprendrez bien que j'ai pas encore eu le temps de regarder dans le détail ce qu'était le projet de loi. Il ira au Sénat dans un premier temps.
Il est, il commence au Sénat.
Il commence absolument à être débattu au Sénat. Il viendra ensuite à l'Assemblée nationale.
Étonnant comme choix, d'ailleurs.
Pourquoi?
Pourquoi?
Ah oui, non,
parce
oui, c'est
vrai. Parce que le Sénat, il sera plus favorable, il y aura moins de...
Non, étonnant comme choix.
Non,
effectivement,
t'as raison. Non, oui,
notamment sur l'immigration. Sauf sur là où c'est obligatoire que ce soit le Sénat, tu vois, genre collectivité territoriale. Mmh. Là, en l'occurrence, il n'y a aucune obligation.
Oui, le gouvernement a tendance, les ministres ont tendance désormais, pour les gros textes, de démarrer au Sénat, qui est une ambiance un peu plus feutrée, on le sait. Les sénateurs marquent leur empreinte. Quand ça arrive chez nous, c'est déjà un peu plus ficelé, quelque sorte.
Et ça ne vous empêche pas de faire votre travail au demeurant, si vous
pas
voulez défaire ce qu'a fait le Sénat, vous pouvez le faire.
Absolument. Okay. Mais ça vient quand même déjà estampiller...
Ouais,
ils veulent commencer par la sieste et ensuite par le bouquin.
T'es méchant avec les sénateurs, arrête, on arrivera.
Mais donc, en tout cas, est-ce que vous n'arrêtez pas de couper la parole. Sur le principe, effectivement, j'ai compris que vous n'avez pas eu le temps de regarder le texte dans son intégralité. D'ailleurs, c'était un texte assez lacunaire pour le moment. C'est ce que a dit Darmanin en le présentant au Conseil des ministres, Mais sur l'esprit global de la politique, sur l'immigration qui est menée par le gouvernement, cette phrase quand même qui n'est pas anodine, on veut ceux qui travaillent, pas ceux qui rapinent. Vous êtes d'accord avec ça?
Mais moi, j'ai pas de problème à évoquer les sujets d'immigration et à dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mmh. Mmh. Ce que fait Gérald Darmanin. Après, il apporte les réponses qu'il apporte. Mais c'est ce que fait Gérald Darmanin. Il y a un sujet d'immigration, c'est vrai. Voilà, il faut qu'on réussisse à en parler et de manière...
C'est quoi le sujet?
Ah ben il y a un problème d'immigration dans notre pays.
C'est quoi le problème?
Le problème, c'est à la fois ceux qui sont admis sur le territoire mais qui n'ont pas vocation à y rester. C'est un problème, c'est que vous les voyez dehors. Pour moi, c'est un problème. Les gens ne sont pas intégrés, ils ne devraient pas être là.
Si on les voit dehors, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires pour les accueillir dignement.
Mais non, parce qu'ils n'ont pas vocation à rester.
Mais c'est qui décide qui a vocation?
Parce qu'il y a aussi cette autre aspect.
Vous parlez des dublinisés?
Ah d'accord, en fait vous faites référence
à... Je fais référence à tous ceux qui entrent sur le territoire, mais qui ne sont censés pas y rester.
Censés ou pas censés, c'est déterminé par le besoin d'emploi des filières professionnelles, et c'est ça qui est prévu par la loi...
Je parle de la situation aujourd'hui.
Oui, d'accord, ok.
Voyez,
Mais je ne enfin, sais pas ce que ça veut dire avoir vocation ou pas vocation. Enfin,
oui, non plus, j'ai du mal à comprendre. Ouais.
Non, vous, si on leur demande,
soit vous remplissez les critères pour obtenir une carte de séjour.
Oui, mais c'est, donc les critères, c'est ça.
Exactement, okay. Soit vous ne les avez pas. Le problème, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de
donc
gens
sur le territoire. Donc vous parlez de l'immigration dite illégale.
Oui,
en quelque sorte.
Oui, absolument. D'ailleurs, il y a ce débat de la légalisation de ces gens, soit sur des filières professionnelles un peu tendues, et la partie, je crois, que défendra Olivier Dussopt.
C'est ça qui énerve beaucoup les Républicains.
Soit la jambe fermeté sur les expulsions.
Du coup, vous n'avez pas totalement répondu à ma question, pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec la philosophie globale du gouvernement qui est de dire on veut ceux qui travaillent, pas ceux qui rapinent, on va à Calais, on défonce les tentes des migrants, etc. Est-ce que
ils
vous,
ça
vous semble normal?
Je ne pense pas qu'ils le disent comme
non,
ça.
Non, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Alors, Darmanin a dit on veut ceux qui travaillent, pas ceux qui rapinent. Hein. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Le fait qu'il y ait des tentes de migrants qui soient arrachées, même dans Paris, aux abords de Paris, c'est aussi une réalité. Je n'invente rien. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette situation?
Mais c'est ce que je vous dis. Je ne suis pas satisfaite.
Non, vous, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est que vous n'êtes pas en train de me dire que vous n'êtes pas satisfaite avec la gestion du gouvernement. Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas satisfaite avec l'immigration illégale et qu'il y a un problème avec l'immigration illégale selon vous.
Oui,
mais vous n'êtes pas en train de remettre en cause la politique qui est menée par le gouvernement à cet égard. Ça vous semble normal?
Moi,
vous qui avez prononcé en 2018 qu'il y avait un problème d'humanisme.
Mais bien sûr, mais ça n'a rien à voir.
Rien à voir.
Mais non.
D'accord.
Alors expliquez-nous.
Mais ça ne veut pas dire. Mais le délit de solidarité. Non, vous parlez du délit de solidarité.
À l'époque, la loi à l'immigration. Ouais.
Exactement. Ça n'a rien à voir parce que. La fermeté, ce que je veux dire, c'est que la fermeté n'empêche pas l'humanisme. Vous pouvez et dire j'accueille et j'intègre dignement les gens qui en ont besoin et je mets les moyens pour ça, ce qu'on ne fait pas tout à fait, je le dis. Et de l'autre côté, dire je suis navré, vous n'avez pas vocation à rester, vous repartez.
Ok, d'accord. Sur le côté, je reviens, excusez-moi, sur votre casquette, si je puis dire, de vice-présidente de l'Assemblée nationale. On a évacué un petit peu rapidement tout à l'heure la question de la réforme des institutions. On aura l'occasion d'en parler parce que c'est en train de revenir. Mais pour ce qui concerne seulement l'Assemblée nationale, je sais que Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de dire qu'elle était favorable à un certain nombre d'évolutions dans le fonctionnement de cette institution.
Oui.
Vous, en tant que vice-présidente, est-ce que vous souhaitez aussi qu'on évolue sur la méthode d'organisation des textes, peut-être pour lutter contre l'obstruction ou à l'inverse pour donner plus de pouvoir au groupe? Comment vous voyez les choses?
C'est un vrai sujet, mais c'est très difficile parce que on est dans une configuration effectivement inédite. Il y a 10 groupes habituellement, il y a 4 groupes, 5 groupes. Là, il y en a 10. Est-ce qu'il faut refaire le règlement pour 10 groupes? Je ne suis pas sûre que ça fonctionne parce que tout le monde n'a pas la même vision. Et puis à la fin, une modification du règlement intérieur doit être votée.
Majorité. Oui, par ailleurs, vous avez raison.
Oui, ça, non, mais vrai. Je veux dire, si c'est que la majorité qui la vote, ce sera un échec aussi. Je veux dire, il faut qu'on arrive. Et je ne suis pas sûre qu'on arrive à trouver des consensus sur la manière de.
Et c'est une vraie question parce que le président de la République lui-même appelle à un dialogue interpolitique avec l'ensemble des forces politiques du pays pour discuter de l'avenir de nos institutions.
Oui.
On voit bien qu'au sein même de l'Assemblée nationale, déjà rien que pour discuter de comment fonctionne l'Assemblée nationale elle-même, ça n'a jamais été aussi galère, en fait, de discuter. Moi, je me souviens de la réforme de 2008, où il y avait une grosse majorité droite, une opposition PS essentiellement. C'était pas facile, mais il y avait que 2 groupes. Donc au final, bon an, mal an, il y avait des discussions, des trucs qui avançaient, etc. Les socialistes ont fini par s'opposer, mais les Républicains ont quand même, enfin l'UMP à l'époque, pardon, a quand même intégré un certain nombre de trucs dans le texte. Là c'est vrai que je vous rejoins dans le côté, avec cette tripolarisation qu'on a à l'Assemblée nationale, beaucoup de mal à imaginer comment vous allez réussir à mettre d'accord tout le monde sur de nouvelles méthodes de débat et de dialogue qui pourtant sont appelées par tout le monde sur ce plateau comme ailleurs.
Oui, c'est vrai. En même temps, c'est l'Assemblée nationale qu'ont voulu les Français, donc il faut faire avec. Mais alors, il y a de temps en temps des points de convergence. On arrive aussi quand même en coulisses à s'entendre avec les groupes sur la manière dont on va fonctionner, sur les dépôts de textes, sur quand même des choses qui se passent et qui sont intéressantes et qui vont dans le bon sens. Mais globalement, l'Assemblée nationale n'est pas faite pour accueillir 10, 11, 15 groupes demain. C'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. On n'est pas censé être morcelé.
Ah mais ah bon, c'est complètement incohérent parce avec ce que vous, enfin vous faites. Dans ces cas-là, pourquoi vous avez créé Horizon?
Non mais alors,
c'est vrai, vous avez défendu l'inverse tout à l'heure.
Et est-ce que vous êtes favorable à la proportionnelle? Vous avez répondu tout à l'heure quand je vous ai posé la question. À la proportionnelle, à l'élection des députés.
Je suis pas défavorable à une dose de proportionnelle, oui.
Mais pas à la proportionnelle intégrale.
Non, pas à la proportionnelle intégrale.
Okay, donc d'accord. Avec un seuil de représentation.
Absolument. De même que je ne suis pas défavorable à la réduction du nombre de parlementaires.
Ouais.
Mais pas par démagogie, pas pour dire les parlementaires ne bossent pas, c'est pas vrai.
Réduction,
jamais une assemblée qui bosse autant. En revanche, moins de parlementaires d'accord, mais qu'ils aient les moyens de faire quand même leur boulot. Parce que de se retrouver avec une circonscription x2, c'est compliqué.
Sur la question des moyens, effectivement, on revient quand même sur cette... vous n'avez pas tout à fait répondu sur non à une Assemblée nationale morcelée, mais oui à une majorité plurielle avec des sensibilités comme celle d'Horizon.
Est-ce que c'est tous les autres groupes qu'on supprime et on laisse ensemble
Oui, bah j'allais le proposer. J'allais le proposer. Non, mais en même temps, je vous dis, c'est ce qu'ont voulu les Français. Donc, c'est certainement une image. Non, mais c'est certainement.
Et ça veut dire quelque chose, vous êtes d'accord?
Oui, ça veut dire quelque chose. Oui.
Et vers quoi on se dirige du coup?
C'est un peu inquiétant, mais ça veut dire quelque chose, oui.
C'est pour ça qu'il faut réagir.
Moi, je crois au clivage gauche-droite.
Ah bon?
Ouais. Ah, c'est intéressant, ça.
Première fois que j'entends.
Clivage et non pas au. Parce que je vous rappelle quand même qu'un certain Emmanuel Macron a théorisé la notion de dépassement en disant que le clivage gauche-droite, lui, n'y croyait plus et qu'il avait vocation à rassembler les bonnes volontés qui viennent de partout pour travailler ensemble dans un projet de progrès. C'était 2017. Vous, aujourd'hui, Naïma Mouchou, vous me dites non, moi, plutôt clivage gauche-droite, ça a du sens, c'est cohérent.
Oui, c'est cohérent parce qu'on vient tous de quelque part. Quand on fait de la politique, on porte un certain nombre de valeurs et de convictions qui vous placent quelque part. Et c'est important que les gens vous repèrent, d'ailleurs. J'ai besoin de ça.
Et vous venez d'où?
Après, je vais vous dire, en même temps, je n'aime pas qu'on me mette dans des cases. Je n'aime pas les assignations à résidence, voyez-vous.
Vous contredisez.
C'est vrai.
Vous pouvez pas me dire au clivage gauche-droite et ensuite me dire en même temps, s'il vous plaît, Naïma Mouchou, vous venez d'où? Vous êtes où?
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que.
C'est pas une insulte de dire que vous venez de droite.
Non, pas du tout.
Voilà.
Je me sens davantage appartenir à cette famille parce que. Il y a des valeurs qui me parlent davantage, l'ordre, la discipline, mais c'est mon histoire personnelle.
Oui, non, bien sûr, très bien.
C'est comme ça aussi que j'ai grandi, que j'ai été éduquée. Bon. Donc ça me parle davantage, le travail, ça me parle. Bon.
Ça veut dire que l'ordre, la discipline, le travail, c'est à gauche, c'est pas le cas?
C'est des marqueurs historiques de la droite. C'est comme l'égalité, la
solidarité. Oui, l'ordre et la discipline,
L'égalité et la justice seraient plutôt à gauche. Même si je me revendique
mais
aussi de ce sujet-là.
Mais elle peut être aussi à droite.
C'est ça, la droite.
Heureusement, d'ailleurs.
Donc vous êtes d'accord, toutes les deux.
C'est pour ça que, du coup,
allez-y.
C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas être assis dans une case. Il y a des sujets sur lesquels je vais être positionnée à droite. Quand on est sur les sujets plutôt justice, j'ai d'autres réflexes qui me situeraient plutôt à gauche. Vous voyez, moi, j'étais favorable à la taxation des super-profits.
Ouais.
Je ne sais pas où ça me situe, ça.
Et le reste de votre groupe,
France Insoumise, madame.
Ben voilà, vous voyez, c'est ça.
Elle rigole.
Tout arrive ou au MoDem, je ne sais pas.
Au MoDem, c'est un amendement MoDem, vous avez raison.
Ou Horizon.
Naïma Mouchou, on va devoir vous laisser y aller parce que là, vous refilez dans l'hémicycle. Ça continue les débats jusqu'à minuit. C'est quoi la proposition de loi là, qui discutait après la reprise?
C'est l'accompagnement des parents qui ont des enfants malades.
Ah oui, c'est vrai, accompagnement des parents.
De mon collègue Paul Christophe.
Merci beaucoup, Naïma Mouchou, d'être venue sur le plateau de Bakou. Je vous laisse quitter le plateau, merci. Au revoir à vous.
Merci.
Normalement, le principe, c'est que nos invités politiques, on les garde prisonniers pour qu'ils jouent avec nous au quiz et la con, sauf quand ils ont une bonne excuse, genre par exemple, désolé, on doit écrire la loi, désolé, je dois voter des trucs. On peut le comprendre.
Mais je trouve que c'est une très belle conclusion. Madame la députée est partie en disant qu'elle était pour la taxe sur les super profits. Je trouve que c'est une très
belle conclusion. J'avoue.
Elle est partie vraiment, c'est waouh, exceptionnel.
Sans nous dire pourquoi.
Donc voilà, non, mais c'était proposé par le MoDem, effectivement aussi. Puisque Naïma Mouchou nous a quittés parce qu'il fallait qu'elle aille faire la loi.
Elle est partie.
Voilà. Oui, non, elle va bien, elle vous embrasse.
Attends, t'as pas vu les journaux de demain encore?
Ah ouais, le cœur, quoi.
Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Arrêtez avec cette histoire de malédiction. Les politiques continuent à venir. Vous allez adorer. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, Adèle, tu restes avec nous pour le quiz à la con?
Oui. Avec plaisir.
Allez, c'est parti pour le quiz à la con. Let's go. Le quiz à la con qui va être très difficile à faire pour moi puisque je l'ai pas dans mon doc. Laurent, si tu peux essayer de faire parce que on a répété l'émission. Ça va, vous l'aimez bien cette émission?
Ouais, ça va.
Non, c'est cool.
La chronique d'Adèle, c'était très cool. J'aimais beaucoup.
C'était vachement bien.
C'était très très bien.
Non, c'est vrai, c'était bien.
C'était vrai, très très cool.
C'était cool.
C'était mieux que la prestation de Naïma Mouchou en tout cas avant.
Est-ce qu'on fait des paris sur l'avenir politique de Naïma Mouchou après cette émission?
Première ministre.
Avec Doudou président.
Édouard Philippe président de la République en 2032, Naïma Mouchou première ministre.
Mais comment tu tiens ça d'où?
Mais de mon cul, qu'est-ce que je te dis, j'en sais rien, j'en pense.
Ah oui, d'accord. Okay.
2032.
Non mais moi tu vas en
2027, ce sera le premier quinquennat de
Marine Le Pen.
Non, de Jean-Luc Mélenchon.
Ah oui, d'accord.
Il va faire sa loi sur le nucléaire en 49.3. Enfin, ça va être compliqué, mais
il a dit qu'il arrêtait la politique.
C'est très clair.
Enfin, il a dit faites mieux. Truc dangereux. Oui, ouais. Il l'a dit.
On verra.
Et il l'a dit.
Non, je sais pas, j'en sais rien. Mais mais. Mais Naïma Moutchou, en tout cas, je continue à meubler. Hein. Vous avez tous compris que là, j'avais pas encore la question du quiz à la con.
Non, mais je parlais de la malédiction de Backseat quand même. C'est assez drôle.
La malédiction de Backseat, ça n'existe pas. C'est un leurre.
Oh. Merde, j'aurais peut-être dû garder mon quiz à moi pour maintenant. En fait, là, je me dis que. Je...
Ouais, du coup, ouais.
Non, t'inquiète.
De toute façon, moi, je pars pas tant qu'il n'y a pas de quiz à la con. Hein.
Personne ne sort d'ici tant qu'il n'y a pas de quiz à la con. Hein.
En tout cas, je voulais dire que c'était très cool quand il y avait un public qui était nombreux. Parce que ça donnait vraiment de la vie à l'émission. Franchement, c'est un pur kiff. Voilà.
C'est clair. Ouais.
Et par ailleurs, ça participe au financement de l'émission, financement auquel vous pouvez participer vous aussi sur le Utip de Jean Massier. Voilà, utip.io/Jean Massier. Vous venez, vous claquez votre meilleur don. Ça nous permet de financer cette belle émission et de rémunérer la vingtaine
27.
De personnes, d'acheter du Jet 27, évidemment, pour Léa qui
pour
en réclame à chaque fois. Elle est chiante avec ça.
heureusement qu'il n'y en a pas.
Oui, en vrai, heureusement qu'il n'y en a pas. Mais on a d'autres trucs. On a d'autres trucs, en tout cas. Merci à vous, en tout cas, pour votre soutien. Merci à toutes et à tous. Et je vous rappelle, je vous donne rendez-vous lundi en direct sur ma chaîne pour quelques annonces sur les nouveautés qui vont arriver dans cette campagne de financement participatif. Chers amis, le quiz à la con cette semaine, on commence avec la première question.
Ah,
si la régie, vous êtes prêts. Quelle appellation de commission de contrôle de parti politique a réellement existé parmi celles-ci?
Wow.
On a le...
J'ai rien compris déjà.
Ça s'affiche.
Dans les partis politiques, il y a des commissions de contrôle.
Il y a trop de mots.
Elles ont des noms chelous.
Qui font quoi?
Laquelle,
quoi,
parmi ces quatre propositions, a vraiment existé? Réponse A, la connard. Réponse B, la culée. Réponse C, la crétune. Et réponse D, la couillasse.
C'est cool, c'est
magique. Je crois que je l'ai.
Alors, donc, si vous connaissez la réponse, je vous demande de ne pas la hurler. Ouais.
Voilà. Non,
qui contrôle quoi, du coup?
On contrôle plein de trucs dans les partis. Tu sais, il y a la commission de recollement,
oui, sais,
on recolle
oui.
les voix, on contrôle...
Bah, c'est pour ça que je demande.
On contrôle les adhésions, on contrôle plein de trucs.
La commission... Alors là, il faut réfléchir en fonction de ce que ça veut...
La CON.
Tu vois.
Contrôle.
L'acronyme.
Mmh. Ouais.
La commission...
Couillasse, ça n'a aucun sens.
Organisationnel.
Et vous,
enfin, après,
chat,
ça dépend ce qu'il contrôle.
Et vous, unique. Le chat, vous pouvez participer au quiz à la con en votant dans le sondage dans le chat et
précis.
En nous disant laquelle réponse selon vous est la bonne.
J'espère juste qu'on pourra cliquer le couillasse. Ça n'a aucun sens de Léa.
La culère.
C'était légendaire.
En fait, il faut. Ouais.
Connard, c'est pas mal.
La crétin.
Putain, ouais. Ils doivent avoir du boulot. Hein.
La commission réglementaire.
Mais ouais. t'as la haute fonctionnaire commence à réfléchir en acronyme. Eh, hey, c'est un quiz à la con, on est là pour rigoler, hein.
Commission organisationnelle de la...
Oui.
Bon, allez, faites vos jeux.
Connard, c'est cool.
Connard, au moins, c'est, ça commence par co comme contrôle, commission.
Le président de la connard, je trouve que c'est cool.
Attends, alors, on prononce ça connaré, pour éviter hein, les...
Et tu nous emmènes
culé, c'est pas mal aussi.
Peut-être.
Bon, crétin, c'est pas mal.
Tout est pas mal. Culé, connard et crétin, c'est pas mal.
La culée, je vais saisir la couillasse.
Non.
Est-ce que c'était un parti politique français?
Oui. Ah. Oui, c'est en France. La France du général de Gaulle.
Vous êtes vachement.
T'es content de savoir. Hein.
Il l'a dit.
Lui aussi.
Alors, Jean, j'ai réfléchi avant de la faire, mais je vais la faire. Couillasse, c'est une grande, une petite commission. Désolé.
Elle est trop précise.
Désolé.
Elle est trop précise.
Désolé.
La ref est très précise.
J'ai réfléchi et puis voilà, j'y suis allé. Désolé.
Ok, d'accord. Alors, vos réponses.
J'imagine une réunion genre, on se voit plus tard à la couillasse. On se voit plus tard à la crétin. Et tu vas à la connard.
À la culée.
Je peux pas venir ce soir, j'ai couillasse.
Ouais, je peux pas. T'as dit quoi lors du jour de la culée?
La culée m'a tué.
C'est vraiment.
La fin de ma carrière politique, c'est sur une culée.
Moi, j'avais voté A.
La connard m'a tué.
Toi, Malek, toi, tu dis la connard. Adèle.
Mais je sais pas, ça me dit quelque chose.
La connard, ça dit ouais, quelque
la
chose.
La connard.
Chloé. Voilà, la culée.
La culée, réponse B.
La culère, je sais pas.
Léa, t'en penses quoi?
Tout ouais, choix est angoissant, il hein, faut bien le dire. Là, je...
Les résultats de la
On a décidé ça, enculée. Dans le chat, tiens.
Qu'est-ce qu'il a dit dans le chat?
Non, mais pardon, mais... Excusez-moi, mais je ne veux
pas... Oh.
On se retrouve enculé.
Et je ne sais pas.
Je vais enculer. Ah oui.
Ah, oui, évidemment.
On va se
retrouver. Ah,
on se retrouve enculé, c'est un match qui va passer pour
non,
toi.
Non, oui, c'est bien, ouais.
Attention, ton sort.
Non, mais étant donné que c'est quand même globalement. C'était un parti de droite ou de gauche?
Ah, tu donnes ta réponse, Léa, maintenant t'arrêtes. Hein. Le chat, il a répondu réponse
crétin.
B, la culée.
Allez,
et toi, tu dis la crétin, réponse C. Oui. Eh bien, chers amis, la bonne réponse, c'était la réponse A, effectivement, la connard.
Ça me parlait.
C'est dommage.
Eh ouais. C'était la Commission nationale de recours de l'UMP.
Ah.
C'est pour ça.
Ben oui, c'est tu te souviens, ça te rappelle des souvenirs.
C'était le nouveau COCOE, en fait.
C'était la COCOE, c'était autre chose.
C'était OK.
C'était encore autre chose.
Mais c'est plus récent, la
COCOE, c'était la commission de recollement, machin. La CONAR, c'était...
Non, c'est la
COCOE. Je vais faire l'archéologie de l'UMP, moi.
Si, c'était la prédécesseur de la COCOE.
C'est ça. La CONAR qui est devenue la COCOE. Après le congrès de... Non, je déconne, j'en sais rien, mais voilà. Donc voilà, pour ce qui est de la culée, de la crétin et de la couillasse, ça a existé. Non, c'est pas vrai. C'était une invention de Max, qu'on embrasse. Deuxième question de ce quiz à la con. La famille de Napoléon est à l'origine de trois des propositions à suivre. Une seule est fausse. Attends, proposition de quoi? Je comprends pas. Ah oui, non, d'idée, pardon. Le FBI, réponse A. La margarine, réponse B. Le groupe Vivendi, réponse C. Le fer à repasser, réponse D. Parmi ces quatre propositions, il y en a trois que l'on doit effectivement à des membres de la famille de Napoléon.
Lequel? Napoléon Ier ou Napoléon III?
En même temps, c'était un peu la même famille.
C'était la blague.
Mais il bossait sur des trucs très très différents en tout cas. Il avait quand même beaucoup de corps de métier.
C'est un peu... Voilà.
Ah, fâche.
La margarine parce que c'est moins cher. Ça, c'est bien un truc de Napoléon.
Le fer à repasser aussi.
Non, mais ça devait exister avant.
De quoi, le fer à repasser?
Ouais.
Bah, peut-être pas sous la forme que la famille Napoléon a inventée, je sais pas.
Peut-être qu'ils ont inventé une...
La centrale vapeur.
Ils ont
disrupté le...
C'est ça.
C'est eux qui ont inventé le pipit pour faire fuir le chat.
Ouais, mais t'as raison.
Je dis ça, j'ai pas de chat.
Je sais pas.
Ok.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à dater le gros fer à repasser, effectivement, en plomb qu'on mettait au... À mon époque, quand j'étais petite, tu sais, là, on mettait le fer à repasser dans le feu, directement.
Non, c'est vrai, tu foutais des braises au début dans les fer à repasser. Tu mettais des braises, tu refermais.
T'es bien au courant.
Eh ben, je viens de... Tu sais pas d'où je viens. Je viens pas du tout d'un endroit où on utilisait ça, c'est pas vrai. Mais ouais, non, c'est ça.
T'es peut-être un peu jeune aussi.
C'est marrant parce que le groupe Vivendi, on se dit tous que oui, c'est sûr.
Bah ouais.
C'est évident.
Ça paraît évident pour tout le monde.
Bah, peut-être qu'il y a un lien Bolloré-Napoléon Bonaparte, je sais pas.
Non, mais
je pense que c'est un
Je sais pas. Je peux en parler très librement, ce n'est plus l'actionnaire d'une émission pour laquelle je taffe.
Ils ont inventé le népotisme.
Tu travailles plus pour l'émission,
non,
c'est la même. C'est juste.
Parce que c'est ça, hein.
Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, selon vous, laquelle de cette proposition est fausse, rendant les trois autres vraies, de fait?
Attends, Usul a répondu? Ouais, j'ai vu des gens dire.
Dans le chat, Usul.
Non, j'en sais rien.
Usul, si t'as une idée, tu peux nous le dire dans le chat. Hein, mais
Moi, je dis le fer à repasser. C'est fou.
Le fer à repasser, réponse D pour Léa.
Ouais, de même, le fer à repasser.
Chloé, le fer à repasser, réponse D. Malek.
J'ai envie de dire C pour le fun. Mais parce que j'y crois quand même un peu.
Bah, ok. On dit bien le truc faux. Hein.
Ouais, le truc faux.
Ok. Donc, réponse D pour Malek.
En même temps,
Adèle.
La famille de Napoléon, ça peut être ses aïeux, donc ils peuvent avoir inventé le fer à repasser.
Je précise que Pierre-Jean Chalençon ne fait pas partie de la famille Napoléon. Voilà.
Bien qu'il l'espère, hein, mais
il fait partie des fans.
C'est un délire quand même.
Adèle, qu'est-ce que la famille de Napoléon n'a pas inventé?
Ouais, le groupe Vivendi.
Le groupe Vivendi, réponse C pour toi aussi. Le chat,
peut-être.
Vous avez répondu réponse D majoritairement. Eh bien, la bonne réponse, c'est bien la réponse D. Bravo le chat, effectivement. Okay. Le fer à repasser, et bravo Léa et Chloé. Le fer à repasser n'a pas été inventé par un descendant ou un membre de la famille de Napoléon. Toutes les autres sont vraies. En 1869, Napoléon III lança un concours qui visait à inventer un produit de substitution moins cher au beurre afin que l'armée et les populations les plus modestes puissent y avoir accès facilement. C'est ainsi que le pharmacien français Meige Mauriès, vainqueur du concours, inventa la margarine. Le créateur du Bureau of Investigation, devenu plus tard le FBI, c'est Charles Joseph Bonaparte Patterson. C'était un homme politique américain, mais aussi le petit-neveu de Napoléon Ier. Oh. Et enfin, Vivendi a été fondé par Napoléon III en 1853, à l'origine spécialisé dans les services aux collectivités territoriales. Je suis pas sûr que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais voilà.
On a changé de domaine d'activité aussi.
En fait, il s'occupait d'eau, de transport et d'environnement au début, sous le nom de Compagnie Générale des Eaux. C'était ça, la Compagnie Générale des Eaux, qui a été créée par Napoléon III, Vivendi, tout ça, c'est machin. Voilà, pour info, l'invention du fer à repasser à résistance électrique est attribuée à Henry W. Seeley en New York en 1882. Donc effectivement, le fer à passer dans sa version électrique avec une résistance qui chauffe.
Mais faut préciser aussi.
Excusez-nous.
Pardon, mais
c'est pas assez précis.
Excusez-nous, Marie Kondo. Troisième question de ce quiz à la con. Pour la journée mondiale de lutte contre le sida, des préservatifs ont été distribués à l'Assemblée nationale. Que pouvait-on voir écrit dessus ?
À voter.
Attends.
Pardon.
Attends, mais ça doit être sur le fil Twitter de Jean Massier.
A, 69-3. Réponse D, réponse B, débat. Réponse C, érection législative. Oh. Ou réponse D, mets-la-moi dans l'urne.
Attends, c'était cette année ?
Oui, c'était cette année.
Cette année ?
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'Assemblée nationale a distribué gratuitement des préservatifs dans sa boutique. Et il y avait effectivement écrit des trucs dessus,
j'espère
drôle.
C'est ça, parce que là...
J'en ai fait du coup avec mon chat, la source d'un thread Twitter, on a raconté beaucoup de conneries.
Ça, ouais.
Mais le but, c'était de vous embrouiller en vous demandant mais il y avait quoi écrit à la base sur les préservatifs de l'Assemblée.
C'est toi qui as participé ou pas ?
Non, justement.
Au brainstorm à l'Assemblée.
C'est regrettant de ne pas avoir été consulté que j'ai envoyé à l'Assemblée nationale un thread en leur disant « Franchement, vous m'auriez demandé ». Avec mon chat, on a eu une proposition. Je crois qu'on en avait 150 des propositions
mais
débiles.
Ça vient d'une asso, ça vient de la présidence.
Ouais,
ça vient
qui ouais merci, parce que ça a un peu sur la réponse.
C'est une initiative de la direction de la communication de l'Assemblée nationale.
Okay.
Donc de l'hôtel de la présidence de l'Assemblée nationale.
Oh, c'est la direction de la communication, ils sont perdus dans l'organigramme.
Ouais. D'accord, ils sont c'est perdus pas de son court, cabinet. Mais
Il y a une direction de la communication, déjà, je la prends.
Non. Enfin, si, pareil.
Ouais, enfin bon.
Ah bon ? Il doit faire des flyers, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Vie plus ou moins.
Mets-la-moi dans l'urne, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
Je vous en supplie, mais vraiment, je suis prête à croire en Dieu pour que ce soit pas ça, quoi.
C'est sûr que c'est pas ça.
Ça serait peut-être plus au Parlement québécois. Tu sais que tu t'envisages ça. Je
vois, ouais, mets-la-moi dans l'urne.
Non, je pense qu'effectivement, c'est le truc le plus boring des quatre.
C'est
donc
abominable.
C'est débat,
ça me dégoûte.
69-3, vous... c'est beaucoup, beaucoup trop osé.
Tenez la capote, est-ce que vous êtes prêt pour une érection législative ?
Est-ce que je l'avais gardé le thread quelque part ?
Mais même érection législative, ça me dégoûte.
Ça me dégoûte, moi.
Ah non, mais tiens, on dirait la blague du vieux tonton, ouais, là, au dîner de Noël.
Horrible.
Horrible.
Cette question me gêne.
Alors finissons-en.
Oui, vite.
Finissons-en.
Ça aurait pu être sur une capote aussi. Finissons-en. On l'aurait pu faire distribuer au Sénat pour le coup.
Mais donc du coup c'était ça. Non, mais je sais plus où j'ai foutu mon thread, mais on avait raconté. Oui, c'est ça. Il faut conclure, par exemple, faut conclure. Monsieur le député, faut conclure. Prends-moi dans les cabinets ministériels. Enfin, on avait inventé plein de trucs comme ça. Voilà.
Concluez.
Soumets-moi ton amendement. Soumets-moi comme ton amendement. Enfin, des trucs comme ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous répondez à la question ?
Ah là là.
Le chat a répondu réponse B, et vous en pensez quoi ?
Réponse B, moi
réponse
aussi.
Réponse B, débat.
Ouais.
Réponse B également.
Réponse B également.
Ouais, aussi, même si
c'est la débat, seule acceptable débat, en réalité. Ouais. Donc,
c'est la bonne réponse.
Allez, dis la D, Léa, pour qu'on
Non, je veux pas
C'est la bonne réponse, bravo. C'était bien la réponse B, effectivement, débat. C'était effectivement sur les capotes proposées par l'Assemblée nationale. Effectivement.
Ouais,
il y avait aussi des rubans rouges à épingler qui avaient été distribués aux politiques qu'il avait portés toute la journée. Donc, il y avait deux capotes. La première, c'était débat et la deuxième, c'était séance de nuit. Donc voilà.
Oh putain.
Et voilà.
Oh, putain.
La prochaine fois, moi je l'ai dit.
C'est un peu gênant parce que séance de nuit, c'est aussi leur cadeau à la boutique de l'Assemblée nationale. C'est le pyjama pour bébé.
Oui.
Qui s'appelle séance de nuit. Donc c'est un peu contradictoire.
Et vous pouvez acheter la bavette, effectivement.
Enfin, c'est l'un ou l'autre.
La gigoteuse,
hein,
séance de nuit, vous pouvez l'acheter à la boutique de l'Assemblée nationale. Moi, ça fait plein de fois que je dis à la présidence le jour où on fait un partenariat avec la boutique de l'Assemblée nationale, on peut vous proposer un milliard d'idées, plus ou moins drôles, etc.
Plus ou moins drôles.
Mais l'Assemblée nationale ne veut pas communiquer auprès des citoyens. C'est pas trop son truc. Voilà. Quatrième question de ce quiz à la con. Lequel de ces partis politiques existe réellement ?
Ah, ça j'aime bien.
Réponse A. L'alliance des bourgeois tristement incompris.
Mais ça, c'est le parti du Jules, non ?
Ouais, c'est
l'union...
le parti.
L'union des ouvriers consciencieusement flemmards. Réponse C. Le parti des élites ouvertement méprisants.
Non.
Ça, réponse D. La coalition des artisans regrettablement maladroits.
Mais existe où en France ?
Waouh.
Je te dirai pas.
Ah ouais, voilà. Donc pas en France, à mon avis, les gars.
Parmi ces quatre propositions,
ça doit être en Angleterre pour que ce soit un truc aussi.
Parmi ces quatre propositions, il y en a un qui existe réellement. Lequel ?
Aussi fait.
Je répète, réponse A, l'alliance des bourgeois tristement incompris. Réponse B, l'union des ouvriers consciencieusement flemmards. Réponse C, le parti des élites ouvertement méprisant.
Clairement pas humoralement.
Réponse D, la coalition des artisans regrettablement maladroit.
Peut-être humour.
Mais les ouvriers consciencieusement flemmards, moi ça me fait penser à la résistance passive pendant le service travail obligatoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Grosso modo, toutes les usines qui étaient réquisitionnées par les nazis ont forcé les mecs à bosser. Il y avait des techniques mises en place par les ouvriers pour en faire le moins possible, pour bordéliser l'organisation du truc, pour sortir le minimum possible de trucs de l'usine. Et alors, ils étaient très créatifs. Ils inventaient un nombre de conneries possibles sur « Ah bah non, vous comprenez, on peut pas parce que le marteau... » Enfin, ils inventaient des trucs, c'était le bordel, etc. Donc, il y avait des espèces de strates. Le but, c'était quand même de pas se faire gauler, hein, parce que les nazis savaient très bien qu'ils jouaient au con. Mais le but, c'était de montrer que de bonne foi, bah désolé, la chaîne de production, elle est encore arrêtée. Ah bah oui, on est désolé parce qu'on a eu un problème, etc. Donc, soit c'était effectivement, ils déréglaient volontairement la machine, mais c'était très dangereux parce que s'ils se faisaient gauler, c'était peine de mort. Sinon, ils inventaient un nombre de trucs pour être consciencieusement le moins bossé possible, quoi, pour voilà, pas bosser pour les Allemands, quoi. Moi, ça me fait penser à ça. Mais sinon,
moi, le A, c'est le plus probable quand même.
L'alliance des bourgeois, tristement incomplis.
Bah ouais, c'est les pigeons là.
Le parti des élites ouvertement méprisant, enfin qui oserait, tu vois.
Ben moi ça me parle.
Ça nous parle, mais personne n'oserait, enfin tu vois.
Je vais juste faire ma Bernard Pivot deux secondes, en fait. C'est un problème d'accord dans la B, là c'est le parti des élites ouvertement méprisanteux. Voilà, je...
Ah oui, tout à fait.
Donc ça peut pas être ça.
Donc bam, ça peut pas être exclu. Ça, bah, et c'est bon. Donc, mais si, peut-être c'est de la traduction, une mauvaise traduction, parce que c'est pas des partis français.
C'est ça. Et ça, traduction littérale.
Ou c'est peut-être juste une coquille, tu vois, genre il manque un E.
Faites des dons, hein, pour nous aider à faire trop d'orthographe dans les questions du quiz à la con. La coalition des artisans regrettablement maladroit. Non, mais ça, je sais pas, ça peut être la création d'un parti pour se plaindre d'une décision de justice ou un, je sais pas, un artisan.
Regrettablement. Alors, je n'ai jamais vu ce mot. Je m'inquiète. Ouais.
Regrettablement.
C'est intéressant. Autant je regrette. Regrettable. Oui, oui, bien sûr.
Ça va, Bernard Pivot.
Ça va.
Mais c'est regrettable. Vous êtes déjà tous lui.
Oui, non, mais bien sûr. Mais regrettablement.
Mais je dis ça parce qu'il y a des gens dans le chat qui disparaissent.
C'est l'adverbe qui me surprend.
La chiffonne.
C'est ça.
C'est un peu tout match, regrettablement.
Chiffonnement.
On est dans la chiffonnade.
Regrettablement maladroit, ouais. C'est trop recherché. C'est trop. Bon.
Bon, allez, vos réponses.
La B pour moi.
La B pour Malek.
La A pour moi.
La A pour Chloé.
La C.
La C pour Adèle.
Il faut que des gens assument.
Léa.
Bah moi, je vais demander au chat, puisque le chat n'arrête pas de tricher.
Non, le chat, ils ont déjà voté. Moi, je connais leur réponse.
Bon. Non, je déconne, le chat. B, je trouve ça pas mal. Je trouve que ce serait marrant.
Tu votes réponse B. Le chat aussi a voté réponse B. Et c'est la bonne réponse. Effectivement, bravo.
Wow.
Comme par hasard.
Ouais. L'union des ouvriers consciencieusement flemmards. C'est un parti...
J'adore. Essayez de nous aider quand même. Hein.
C'est un parti satirique qui a vraiment existé et qui a même présenté un candidat. L'union des ouvriers consciencieusement flemmards. C'était la traduction approximative de Union of Deliberate Work Avoiding Elements.
C'est un
parti politique formé en 1879 à Aarhus au Danemark par comédien du nom de Jacob Hogard. Il a été élu au Folketing, qui est le parlement danois. Il a remporté un siège, donc proportionnel intégral là-bas, je crois. Ça a été une grande surprise pour le parti, qui comprenait des promesses d'amélioration de la météo, des cadeaux de Noël, plus de meubles de l'époque Renaissance disponibles chez Ikea. Et plus de pain pour nourrir les canards dans les parcs.
Ah oui, donc en plus, rien à voir avec le titre, le nom du parti.
Non, c'est un comédien qui a, et c'est ça la magie, du scrutin proportionnel intégral, c'est que tu peux avoir un siège avec ce genre de parti. Et donc, ça a vraiment existé. Dernière question de ce quiz à la con, chers amis. Laquelle de ces informations historiques est vraie? Réponse A. Al Capone s'est présenté aux élections municipales à Chicago. Réponse B, Pablo Escobar a été député suppléant. Réponse C, El Chapo a été conseiller d'un ministre. Ou réponse D, l'empereur Palpatine a participé à l'écriture de la réforme des retraites.
C'est la B, je crois.
Tu penses?
Il a été député suppléant et ensuite, celui qui a été élu député à sa place a renoncé, dans ma mémoire, pour le laisser devenir député. C'était une espèce de tour de passe-passe, je crois, hein.
C'est pour ça que je vous demande de ne pas donner la réponse quand vous la connaissez.
Mais c'est pas grave, non, c'est pas grave.
Mais attends, ça veut dire qu'il n'a pas été que député suppléant, il a été député tout court, du coup.
Il a siégé. Bah, du coup, c'est bon.
Bah voilà, allez.
Réponse, voilà, c'est bon. C'est la réponse B. En 82, Pablo Escobar a été élu au poste de député suppléant. Pour y parvenir, il a financé des infrastructures destinées aux plus démunis. Il n'a pas hésité à graisser la patte de plusieurs organes de presse. Son objectif, c'était d'éviter l'extradition vers les États-Unis en bénéficiant du statut de député et donc de la, enfin bref, des lois machin. L'élection a quelques temps plus tard été invalidée pour financement illégal. Tu m'étonnes. Tu as littéralement l'argent de la coke. Et voilà, vous connaissez la suite de l'histoire d'Escobar. Mais effectivement, Pablo Escobar a siégé une fois, je crois, à une conférence plus ou moins inaugurale en début d'année au Parlement colombien. Mais voilà. Mais non, Al Capone. On a vérifié quand même avant l'émission parce qu'on a eu un doute. Al Capone n'a pas été candidat à la mairie de Chicago, mais ça aurait complètement pu être le genre de truc qu'Al Capone serait capable de faire. Il était plutôt du genre à se montrer, en plus, Al Capone.
Moi, je pensais que c'était ça.
Il a fait des trucs de charité et tout. Donc, je me suis vraiment posé la question quand on a préparé l'émission. Voilà. El Chapo n'a jamais été conseiller d'un ministre. Quant à l'empereur Palpatine, il y a encore des doutes. Mais,
t'es sûr de ça?
A priori, il a. Ouais. Non, il n'aurait pas trop participé à la rédaction de...
On ne nous dit pas.
Du coup, ça se passe comment par rapport au comptage de points? Comment on compte les points, là, du coup, comme...
Eh bah, c'est une question qui compte pour du beurre, c'est pas grave.
On a, tous un point?
Non, commence pas à négocier, toi. bon, bah voilà, c'est la fin de ce quiz à la con. Merci, bravo à tous, c'était trop bien. Merci, bravo le chat.